Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité, le podcast où on reçoit un médecin chaque semaine de différentes spécialités médicales. Donc aujourd'hui, on a reçu Dr Nadine Cora, qui est pédiatre au Children's Hospital.
Donc la discussion avec Dr Cora était vraiment intéressante. Le monde de la pédiatrie, c'est vraiment pas ce que je m'attendais. En fait, ils ont vraiment une bonne qualité de vie, qualité de travail, puis juste en fait toute l'ambiance, je crois que sur les unités, c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc si vous voulez en apprendre davantage, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode. Et sinon, n'oubliez pas de manger vos légumes verts. L'épisode d'aujourd'hui est possible grâce à notre commanditaire Archer. Archer, comme vous l'avez pu le voir dans nos épisodes précédents, c'est une firme de finance. Mais sachez que même si la finance vous fait peur, on vous conseille fortement de les contacter parce que c'est possible avec eux de débloquer plus de 100 000 de bourses. 100 000 $ de bourse. 100 000 $ de bourse, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous.
Oui, exact. Ça se prend bien. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous dès maintenant, le lien est sous la vidéo. Puis, dans le fond, c'est vraiment une expérience client qui est top notch. Avec Archer, je parle d'expérience avec eux. Ils sont faciles d'approche, tout est rendu vraiment simple pour vous. Puis c'est vraiment une courte rencontre, ça peut être prendre juste 20 minutes. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous dès maintenant avec une entreprise super qui est spécialisée en médecin puis qui offre des services totalement gratuits aux étudiants. Donc allez voir ça.
Donc, merci beaucoup, Dr Cora, d'être venu avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Et pour commencer, on voulait savoir, est-ce que la médecine vous a toujours intéressée? C'est vraiment la chose que vous voulez faire depuis que vous êtes toute petite?
Je pense que oui. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai aucune personne dans ma famille qui fait de la médecine. Mais c'est toujours dans ma tête. Il y avait toujours la vouloir d'aider des personnes, de voir la médecine. Je suis toujours bonne en sciences. Donc, je pense que c'était vraiment juste naturel que je suis ça. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai joué beaucoup au piano, puis j'avais comme une décision à faire, est-ce que ça va être vraiment la musique compétitive ou est-ce que ça va être la médecine? Okay. Puis là, il y avait toujours quelqu'un qui était en première place, puis moi, j'étais toujours deuxième quand je faisais des compétitions en piano. Donc, j'ai dit non, pas la musique, je vais aller en médecine. Mais dès que j'ai fait ce choix-là, je pense que c'était toujours là. Je sais pas pourquoi, mais c'était comme un feeling que moi, j'avais.
Puis ça a fonctionné directement après le cégep. Dans le fond, vous avez réussi à rentrer à McGill.
Non, donc j'ai fait un baccalauréat en premier.
OK.
Puis après, je suis rentrée.
Un bac en quoi?
En physiologie.
OK.
J'ai même fait une maîtrise entre tout ça puis rentrer en médecine. Mais dès qu'on a commencé, c'était toujours avec le but de faire ça. Moi, j'avais des opportunités de voir d'autres choses, de faire un petit peu de recherche pour voir est-ce que c'était plus ce type de médecine que je voulais faire. c'est beaucoup plus clinique que je voulais faire. Donc, moi, j'ai eu des opportunités d'essayer de voir un tout petit peu c'est quoi, quelles sortes d'autres choses qu'on peut faire dans la vie. Mais là, c'était assez facile de choisir une carrière en médecine.
Mm-hmm. Puis, rendu en médecine en tant que telle,
oui.
Je pense que vous avez fait votre médecine à McGill.
Oui.
Est-ce que vous saviez dès le début que la pédiatrie, c'était là-dedans que vous allez aller?
Oui. Mais ça a pris du temps pour vraiment le confirmer. Je sais que moi, je suis la plus vieille de trois filles, donc j'avais des petites sœurs de prendre soin, beaucoup de cousins et cousines. Il y avait toujours comme la vouloir de prendre soin des enfants. Même si je savais pas exactement ça veut dire quoi, pédiatrie, puis quelle sorte de soins on va donner, il y avait toujours la vouloir de participer avec les enfants. Je me souviens, moi, j'étais en quatrième année, ma dernière stage en clerkship. Puis c'était la médecine interne. Et moi, j'étais au ancien Royal Vic en été. Puis chaque jour, quand je rentre, il y avait mon patient qui était là. Il avait juste 50 quelques années, mais il faisait la diabète. Puis il fume à tous les jours, dehors. Puis on était dû pour amputer son pied dans quelques jours, mais il était là à chaque jour avec sa cigarette. Et j'ai dit, mais ça se peut pas. On te dit à tous les jours, il faut changer la vie, il faut s'améliorer ton lifestyle. Comme, on va amputer ton pied, on va faire la même chose sur l'autre côté. Pourquoi tu m'écoutes pas? Donc, ça me frustrait tellement. J'ai dit, non, je veux pas prendre soin des adultes. Je veux prendre soin des enfants parce qu'il y a au moins la famille. Ils écoutent pas 100%, mais presque 100%. Il y a la famille qui veut vraiment écouter, changer la vie, faire le mieux possible pour leurs enfants. Puis moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces discussions-là qu'avec un autre adulte qui ne m'écoute pas. Ouais. Donc ça va vraiment confirmer que c'est la pédiatrie que je voulais faire.
je peux quand même comprendre que ça peut vraiment être une frustration probablement dans oui. certains cas.
Oui. Clairement. Ouais.
Donc là, rendu en résidence, comment oui. ça se passe une résidence en pédiatrie? Tu sais, on s'en parlait un peu avant, on avait comme l'impression que ça doit être un petit challenge que notre 4 ans de médecine est tellement focusé sur les adultes. Tu sais, oui. on parle un peu une fois de temps en temps de la pédiatrie, mais c'est comme vraiment effleuré, tu sais, rapidement. Mm-hmm. Donc, de transitionner avec cette population-là, ça doit quand même être un peu challengeant au début.
Un peu. Nous, on avait le choix de faire plusieurs électifs dans le même endroit. Donc, moi, j'ai fait beaucoup en pédiatrie. Je sais que c'est un peu différent maintenant, mais j'avais au moins plusieurs opportunité de travailler avec les enfants. Mais dès qu'on commence avec, mais à McGill, c'est là que j'ai fait ma résidence au Children's, on fait 3 ans de pédiatrie générale. Et après ça, tu peux choisir une spécialité si tu veux, comme la gastroentérologie, rhumatologie, pédiatrique, ou tu peux rester en PED général pour un autre an pour travailler à l'extérieur comme consultant, ou 2 ans de plus si tu veux rester dans l'hôpital. Puis il y a tout le choix. Donc, on fait le NICU, PICU, à l'extérieur, les cliniques, l'urgence, les étages. Donc, on est exposé vraiment à tout. Donc, en pédiatrie, c'est les nouveau-nés ou même les prématurés jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, c'est assez large comme spectrum d'âge qu'on va suivre. Donc, on est exposé à tout le monde, tout le temps. On donne des choix, en particulier aux deuxième année de résidence, de faire plusieurs électifs. Donc, si tu veux essayer voir c'est quoi un pneumologue pédiatrique, un rhumatologue pédiatrique, mais là, il y a des options à faire ça. Là, avec la COVID, c'est moins possible, mais moi, j'ai aussi voyagé comme à CHEO, à SickKids à Toronto pour voir un tout petit peu d'autres organisations aussi. Et donc, ça aide vraiment à confirmer est-ce que c'est ça que tu veux faire comme la reste de ta vie. Comment tu te sens après une journée, après une semaine, après un mois de stage. Et est-ce que ça te donne la joie? Mm-hmm. Ou est-ce que c'est trop difficile? Ou est-ce que... Même si je pensais que parler avec la famille serait plus facile, est-ce que c'est plus dur et je ne savais pas? La réponse est non. C'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais faire? Est-ce que ça te donne encore le vouloir de revenir à tous les jours? Mm-hmm. Parce que durant la résidence, je suis sûre que tout le monde a dit ça, c'est dur. Ouais. Hein, c'est là qu'il faut vraiment travailler fort parce que comme tu viens juste de dire, tu as 3 ans, 4 ans, 5 ans, de vraiment comprendre tout, de sentir comme établi dans ton profession avant de commencer la profession. Donc, il faut vraiment être sûr de ce que tu fais, d'avoir tous les skills, d'avoir tous les besoins avant de commencer à travailler. Ouais. Donc, les heures sont là. Nous, on fait beaucoup de stages, beaucoup de choses, mais très bien supporté pour être sûr que ça va bien. Donc, c'est ça que j'ai fait.
Puis, c'est quoi les rotations, les électives que vous avez le plus aimé, mettons, dans... Avez-vous hésité sur des sous-spécialités un
oui.
peu?
Oui. Moi, j'ai fait, chaque fois que j'ai fini une sous-spécialité, j'ai dit non, c'est ça que je veux faire. Donc, je voulais faire comme pneumologue. Et après, j'ai fait en rhumatologie. Non, je n'étais pas assez intelligente pour rhumatologie, mais j'ai fait comme... j'ai fait plusieurs rotations, puis j'ai toujours fini le mois de dire, ah, oh, ça, j'aime beaucoup. Sont vraiment intéressants, les patients. Et là, j'ai dit, moi, j'aime beaucoup hein, tout ce que je vois. Donc, selon moi, c'était plus la pédiatrie générale, mais dans un hôpital. Donc, c'est très spécifique dans un hôpital. Moi, je n'ai pas de clinique, je ne sors pas de l'hôpital. Je vois juste les enfants qui sont admis la plupart du temps à l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc là, c'est comme la médecine interne, mais pour les petits. Donc, c'est beaucoup de pathophysiologie, c'est beaucoup de surspécialités qui vont travailler ensemble. Il y a beaucoup de recherches à faire aussi pour être sûr qu'on prend soin des enfants. Il y a des choses qui arrivent souvent, mais il y a des choses qui n'arrivent pas souvent. Puis, il vient chez nous quand on ne sait pas quoi faire à l'extérieur. Donc, ça, c'était très intéressant. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé un petit peu de tout, mais dans un hôpital, dans quelque part où on pouvait encore parler, discuter avec tout le monde, travailler chaque jour avec les personnes, donc continuer à m'apprendre à tous les jours. Ça, c'était beaucoup
l'esprit
plus...
L'esprit d'équipe, là,
c'est
qui
ça.
Est là.
Exactement. Puis plus, pas juste les médecins. Donc là, on a tellement de ergothérapie, physiothérapie, musicothérapie. Il y a tellement de personnes qui peuvent ajouter à la bénéfice et à la vouloir de prendre soin des patients. C'est magique à voir comment ça peut s'évoluer. Souvent, j'explique à mes résidents puis à mes étudiants, c'est juste le temps qui corrige beaucoup dans la vie ou qui vont soigner les enfants. Donc, nous, il faut juste les supporter pendant ce temps-là. Ils vont faire tout le travail eux-mêmes. Nous, on aide un peu, mais c'est beaucoup plus eux qui vont faire ça. Donc, en voyant ce qui arrive, en donnant le support et même comme des choses pour donner de l'esprit pour les parents, de donner un petit peu d'enseignement pour les parents, ils sortent plus confortables, plus confortables avec leur
enfant. Préparés à comme gérer les différentes situations par rapport à l'état de l'enfant.
Quand ils arrivent, ils ont peur. Ils ont peur qu'est-ce qui arrive, ils ont peur, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe, puis ce n'est pas sur eux, c'est leur enfant. Donc, c'est difficile des fois, en particulier si c'est jeune enfant. Donc, si on peut les supporter, les protéger, mais aussi les soigner, mais la famille, pas juste le patient, mais donner des indices pour la prochaine fois, essayer ça. Ça, c'est des ressources à lire ou à faire. Ça les encourage beaucoup. I empower them. C'est très fort comme, comme spécialité ou comme feeling qu'on peut avoir à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou un long admission. C'est très beau à voir.
Est-ce que vous trouvez qu'en général, vous avez plus, c'est comme vous avez dit, là, vous ne parlez pas juste avec l'enfant, mais aussi avec la famille, que ça devrait changer un peu la relation que vous ayez avec vos patients, c'est que classiquement, le médecin, il y a un patient, alors que là, vous êtes en coalition. Puis comment c'est de devoir discuter avec tout le monde? Parce que parfois, dans les familles, je suppose que c'est pas tout le monde qui a la même opinion de comment qu'on traite, comment qu'on fait quoi.
Ouais.
Donc, ça doit quand même être difficile parfois de discuter avec tout.
Des fois, il y a la plupart du temps que c'est comme la même direction. La plupart de nos enfants, ils ne parlent pas. Ils sont assez petits que c'est vraiment, on les observe, on regarde, mais on a les discussions avec les parents. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une conversation avec nous, on essaie de commencer avec les petits-enfants ou avec les adolescents. Ça, c'est très différent. Puis, on ajoute les parents, c'est sûr, dans chaque situation, mais c'est pour plus de support. Mais on commence avec l'ado, par exemple, on va chez les parents, mais on retourne à l'adolescent pour être sûr que tout le monde est sur la même page. Puis, quand ils vont partir à la maison, ils savent que nous, on a donné comme de l'information à la patiente ou à le patient pour être sûr qu'ils peuvent continuer à se gérer, à parler de leurs symptômes, n'importe quoi. Puis, les parents sont là pour supporter. Juste comme nous, on a montré à eux, on parle avec toi, mais il faut avoir aussi la famille à te supporter puis à t'aider à faire parce qu'ils sont encore dépendants à plusieurs parties du temps sur leurs parents pour tout.
Fait que l'enfant a la compréhension un peu de ce qui se passe aussi. Est-ce que ça arrive des fois, c'est vraiment juste par curiosité, que les parents ne veulent pas dire à l'enfant qu'il y a une telle maladie ou un tel diagnostic?
Ouais. Ouais.
Puis est-ce qu'en général, c'est plus quelque chose que vous conseillez ou conseillez moins?
Ça, c'est dur. Ça dépend de la situation. Mais en général, on conseille qu'il faut vraiment le dire, mais peut-être pas quand moi, je veux le dire. Si les parents veulent réfléchir un tout petit peu, ils veulent parler avec leurs parents ou quelqu'un dans leur communauté avant, mais là, ils vont demander le support avant de parler avec l'enfant. Ça, on va respecter ce choix-là. Mais en général, on veut que l'enfant entend. On veut qu'ils participent dans toutes ces discussions-là parce que c'est leur vie.
Oui.
Même s'il y a quelqu'un qui aide à nourrir et à protéger, mais c'est leur vie. Donc, on veut être sûr qu'ils ne sont pas exclus. Donc, ça dépend. Des fois, on peut attendre un tout petit peu juste pour supporter les parents avant parce que si eux, ils ne sont pas prêts, mais là, l'enfant va regarder aux parents pour de l'aide puis ils ne vont pas l'aider. Donc, on attend de temps en temps, mais on veut vraiment les supporter. Puis ça, c'est une autre chose qui est très bien à l'hôpital. Je suis sûre à l'extérieur aussi, mais il y a beaucoup de ressources qu'on peut donner aux parents. Il y a beaucoup de personnes avec qui je travaille, comme les travailleurs sociaux, la musicothérapie encore. Il y a plein de personnes qui peuvent aider à quoi dire. Il y a des ressources, on a des jouets, on a des livres. Mm-hmm. Comment utiliser ces mots-là, comment expliquer. Nous, on a des poupées qui peuvent rentrer dans la chambre pour voir quelle sorte de chirurgie va arriver. donc, c'est tous des bonnes choses. Il y a souvent une bonne relation avec tout le monde. Puis ça, tout le monde veut aider le patient. Il y a toujours le focus de l'enfant au milieu. Donc, tout le monde autour, incluant la famille ou incluant les parents qui veulent les supporter, travaillent ensemble. Mm-hmm. Puis, j'aime ça beaucoup.
Puis en parlant de ressources et de soins connexes, moi, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est un mythe, que les soins en pédiatrie sont vraiment mieux organisés dans le sens qu'un enfant peut avoir accès plus rapidement à plusieurs spécialistes dans le même hôpital, par exemple. Souvent, ils sont tous au même endroit. Est-ce que c'est une grosse différence vraiment entre le système adulte et enfant ou il n'y a pas vraiment de différence?
Ça, c'est une bonne question. Ça fait longtemps que je travaille avec les enfants, avec les adultes. Je pense que dans une centre pédiatrique comme tertiaire où moi je travaille et le centre d'adultes, par exemple, au Glen, le Royal Vic, juste à côté de nous, c'est probablement la même. Mais je ne sais pas s'il y a plus d'effort avec les enfants parce qu'on veut moins souffrir ou je ne sais pas, mais c'est pas facile. Il y a toujours dans la communauté aussi, on veut faire des transferts ou on veut trouver des personnes. Des fois, il y a encore des attentes. C'est pas magique en pédiatrie. Ah,
c'est pas parfait.
Non, c'est pas parfait. Mais c'est peut-être tout le monde essaye plus fort. Je sais pas, je suis toujours dans cet environnement-là. Donc, selon moi, c'est comme ça.
C'est la norme.
C'est la norme.
Je comprends.
Mais ça se peut. Ça
puis, y a-t-il d'autres grandes différences entre le milieu pédiatrique puis le milieu adulte que... Tu sais, je sais que c'est comme dit, ça fait longtemps que vous avez parlé avec les adultes. Mais,
si on parle avec les résidents, par exemple, qui viennent en pédiatrie, ils disent que c'est plus fun, je sais pas, parce qu'il y a peut-être, nous, on a des clowns qui sortent une fois par semaine sur les étages, ou on a la musique, ou les jouets, ou des choses comme ça. Donc, peut-être c'est plus amusant pour travailler avec les enfants, mais je pense que c'est la même. Dans l'hôpital, par exemple, parce que là, il y a des enfants qui sont très malades. C'est très compliqué des fois. Donc, c'est pas juste... Peut-être c'est différent dans une clinique, par exemple. Mais là, c'est assez compliqué quand même qu'il faut vraiment être sérieux. Il faut avoir tous les supports, les mêmes règles de respect, de procédure, exactement. Mm-hmm. Mais on a des clowns aussi. Donc, peut-être c'est plus amusant, je sais pas.
Si on revient un peu à vos études, parce qu'après votre résidence, vous avez quand même été faire une surspécialisation à Toronto.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette surspécialisation-là?
Oui. Donc, à Québec, c'était demandé de, si vous voulez rester dans un hôpital ou dans un centre tertiaire, il faut avoir une expertise. Puis il faut aller dehors de Québec, de trouver cette spécialité ou de cette expertise, puis là, puis revenir avec. Donc, si je voulais travailler dans une clinique à l'extérieur, moi, j'ai pas dû de faire ça, mais à cause que je voulais rester à l'hôpital, c'était le plan. Donc, moi, j'ai choisi l'hôpital SickKids à Toronto. C'est la plus grande hôpital dans notre pays.
Au Canada.
C'est le plus
gros, okay. Pédiatrique.
Ouais. Ah. Puis ça vient juste d'être comme la meilleure hôpital pédiatrique au monde, je pense. En tout cas,
wow.
C'est très bien. Mais c'est drôle parce que même si c'est plus grand, puis il y a plus de personnes qui travaillent là, puis plus de spécialités, puis plus de cas comme différents et rares, c'est un petit peu la même médecine que nous, on travaille ici. C'est la même entourage qu'on donne, c'est la même support, c'est la même pensée. Donc ça, c'était bien à savoir. Mais donc là, j'ai fait 4 ans à l'hôpital de Montréal pour enfants. Puis c'est durant ma 4e année que j'étais là que j'ai dit, oui, je voulais vraiment sortir à Toronto faire ça. Pour voir un tout petit peu plus aussi les enfants complexes, etc., parce qu'il y en a beaucoup plus à Toronto, qui vient du monde entier, pour être traité là. Donc ça m'a exposé à d'autres personnes aussi. C'était très bien. C'est pas... Avant de partir à Toronto, je voulais pas, mais on était exposé de sortir si on voulait rester ici. Mais c'était une de mes années, mais il y avait tellement de choses qui est arrivées durant cette année-là, puis là, j'ai tellement rencontré des personnes avec qui je parle encore. Donc, ça a vraiment donné beaucoup de bénéfices de sortir de la province, au moins pour un an, juste pour être sûre et confirmer que moi, je suis bien ici, c'est ici que je veux travailler, mais j'ai encore des contacts avec qui je peux parler. En même temps, j'ai fait une maîtrise en amélioration continue puis la sécurité des patients à l'Université de Toronto. Donc, encore, il y a des personnes avec qui je continue à parler, qui me donnent des opportunités académiques. Donc, peut-être ça peut arriver si on reste dans le même endroit. Puis, le Children's ici était comme un hôpital très, très bien connu aussi. Donc, je ne voulais pas sortir juste pour dire que j'ai sorti de la province. Mais ça a vraiment me donné comme la chance de faire des contacts assez spéciaux. Si on dit que moi, on est sorti à Toronto, ça me donne un petit peu plus de crédibilité peut-être. quand je reviens pour dire que j'ai vu ce qu'on fait autre part, donc je pense que c'était correct. On continue à faire la même chose parce que c'est la même chose ailleurs aussi. Mm-hmm. Donc, même si je ne voulais pas, c'était vraiment une très bonne année pour moi.
Très enrichissant. Ouais.
Donc, si on a la chance, je sais qu'il y a des personnes qui veulent travailler, qui veulent voyager aussi. Donc, c'est toujours une bonne chose à faire. Mais si jamais vous pensez non de rester, réfléchirez peut-être sortir juste un petit peu hors de...
Sans que ce soit vraiment long, des fois, juste faire un petit
C'est ça. C'était juste un an pour moi, puis... Assez long, mais c'était très bien. Ça a passé très vite, puis ça a vraiment comme confirmé tout ce que je voulais faire, que je peux amener. Puis c'est les contacts encore que j'ai dit que je continue à parler avec. Ils sont vraiment comme la meilleure chose que j'ai.
Puis justement, cette expertise-là en développement continu, comment que vous avez... Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre pratique à Montréal, mettons?
La qualité, ouais?
Oui, exact.
Donc, c'était assez nouveau. Quand j'ai sorti ou quand je voulais passer mon année à Toronto, il n'y avait pas de maîtrise. Il y avait juste un certificat en qualité dans la sécurité des patients et amélioration continue. Mais juste avant de commencer, ils ont dit, « Oh, mais aussi, j'ai une maîtrise pour un an. Est-ce que tu veux le faire? » Et j'ai dit, « OK, bon, sure. Ça ne change pas. Je suis là pour un an, donc je vais avoir la maîtrise. » Puis ça a vraiment donné une formation qui n'existait pas à l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, moi, j'étais comme une des premières à l'amener. Puis encore, même si j'ai des idées, même si j'ai des collègues qui font un petit peu la même chose, mais qui le fait par expérience ou par d'autres choses, par les livres qu'ils vont lire, moi, j'ai comme une maîtrise qui est l'expérience avec tout ce que j'ai fait pour dire que moi, je suis formée dans quelque chose de particulier. Puis c'est un petit peu ça que les hôpitaux en particulier cherchent. Oui, je suis bonne en pédiatrie, mais il y a beaucoup de personnes qui sont bonnes en pédiatrie. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux amener? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux ajouter dans mon centre académique pour McGill, etc.? Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on voulait chercher. Puis ça aussi, c'était vraiment à la fin que j'ai trouvé ça parce que, encore, j'ai aimé beaucoup ce que je faisais pendant ma résidence avec la recherche, avec l'éducation. Mais c'était plus après que j'étais résident chef, chief resident. Mm-hmm. Là, il y avait tellement de choses par rapport à les horaires, avec s'il y a quelqu'un qui ne vient pas, mais la sécurité des patients qu'il faut être couvert, mais je ne veux pas trop stresser mes résidents. Il y avait comme une introduction naturelle à voir comment est-ce qu'on peut améliorer la soin pour tout le monde, pas juste les patients, mais aussi les résidents et le staff qui travaille. Donc, là, il y avait toujours ces petites possibilités qui viennent juste comme de me trouver à la fin. Et j'ai dit, OK, je vais essayer de voir ça. Puis là, ça se développe très vite parce que c'est quelque chose assez nouveau, mais très demandé par rapport à les hôpitaux et les cliniques autour du monde, mais en particulier au Canada, parce que tout le monde veut faire le mieux possible.
Ah, mais il y a des
Oui, exactement, et s'améliorer. Même la recherche clinique qu'on fait, c'est parce qu'on veut trouver une solution meilleure pour traiter nos enfants ou nos patients. Donc, c'est un petit peu la même chose, mais c'est plus focusé sur des processus, comment est-ce qu'on va trouver ces réponses-là, comment est-ce qu'on va former ces réponses-là, comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on peut diminuer la hiérarchie pour être sûr que tout le monde peut parler s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, etc. Parce que ce n'était pas toujours là, même si on pense que ça devrait être comme ça quand on rentre dans un hôpital ou dans une clinique. Ce n'était pas toujours là. Donc, comment est-ce qu'on va faire ces changements-là? Comment est-ce qu'on va changer la culture? Donc, c'est très intéressant parce que c'était comme la vie quotidienne qu'on voulait changer. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça effectively? Mm-hmm. Donc, c'est ça que je commence à faire à tous les jours. Donc, j'avais mon année de maîtrise, mais je continue comme à tous les jours et à toutes les années de trouver encore d'autres choses. Il y a d'autres
observer
personnes.
Observer ce qui pourrait être amélioré. Puis là, bon, comment on pourrait rendre ça le plus optimal possible.
C'est ça. Puis il y en a plus aussi qui ont fait plusieurs études ou maîtrises qui spécifient aussi. Donc, nous, on parle ensemble. C'est vraiment comme... Il y a une culture qui commence à changer.
C'est vraiment cool.
Qui est vraiment cool, oui.
Si vous êtes chef du département inpatient, je ne sais pas comment traduire ça.
Oui, l'unité d'hospitalisation.
C'est ça.
Okay. Puis est-ce que ça, c'est aussi, si ça, votre maîtrise vous a permis de mieux organiser ces soins-là, et etc.?
C'est une bonne question. Donc, il y a trois personnes qui travaillent un petit peu ça comme chef. Donc, moi, il y en a un qui est comme... On partage beaucoup, mais elle est en train d'être sûre que tout le monde travaille bien, qu'il n'y a pas de gros problèmes par rapport aux ressources, etc., pour que la soin que l'unité va travailler bien et fonctionnelle. Puis il y en a deux qui sont moi puis ma collègue qui est un petit peu sur spécialité, mais c'est ça. C'est pour être sûr que s'il y a des problèmes de sécurité, s'il y a des problèmes de qualité avec des choses qu'on utilise ou avec la langage ou avec un problème qui est arrivé, est-ce qu'on a parlé avec les patients, est-ce qu'on va changer pour être sûr que ça n'arrive pas encore, etc. Donc ça, c'est vraiment mon focus sur, sur les unités. Puis c'est une des plus grandes unités à l'hôpital, donc... il y a aussi comme les urgences, les soins intensifs, etc., qui ont leurs collègues aussi, mes collègues qui sont là aussi, qui vont tous essayer de faire la même chose. Donc, il faut travailler ensemble aussi. Donc, ouais. Il faut parler avec tout le monde pour être sûr que si on fait quelque chose, un changement pour améliorer la vie des patients ou améliorer la vie de même personne qui travaille, qu'on va le faire pas juste sur mon unité. Donc, je vais parler, faire la recherche et décider de faire ça avec mes collègues aussi à l'hôpital. Donc, c'était un petit peu... Oui, je pense que oui, ça m'a aidé pour répondre à ta question il y a quelques minutes. mais c'était encore juste quelque chose qui est arrivé. Moi, j'étais assez nouveau. Donc, on te demande à faire plein de choses parce qu'on a de l'énergie quand on rentre dans un emploi pour la première fois. Et comme j'avais mon focus sur continuer à améliorer des choses, mais là, on voulait juste... être
ça
sûr que,
de soi, là.
Exactement. Mm-hmm. Puis, quand moi, j'ai commencé, on est juste à la fin... à l'ancien hôpital. Donc, c'est ma deuxième année, je pense, de carrière où on a fait le déménagement. Donc, ça, c'est, on pensait beaucoup de comment est-ce qu'on va déménager 36 enfants qui sont malades ou qui sont connectés, etc.
Hein?
Ouais. Une à la fois. C'est juste sur mes étages. Il y avait aussi les soins, il y avait tout le monde d'autre, mais sur mon unité, comment est-ce qu'on va faire comme one-on-one, être sûr que tout le monde est sécur? Est-ce qu'il faut avoir un résident? Est-ce qu'il faut avoir un médecin? Est-ce qu'il faut avoir un ergothérapeute? Donc, c'était beaucoup, beaucoup de planification. On avait fait des simulations. C'était très cool comme
j'avais
expérience.
J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'un déménageant comme
ça,
c'est
mais on avait déménagé. Donc, ça, c'était comme un gros projet. Donc, avec ça, il y a comme toujours la culture de dire, OK, là, on est dans un nouveau espace. Même si on a de nouveaux équipements, il y a encore des petites choses qui ne vont pas bien. Mais ce n'est pas parce que j'ai un nouveau stéthoscope que ça va fonctionner mieux. Il faut vraiment aussi changer le milieu, la culture, comment est-ce qu'on va travailler puis parler. Donc,
puis en étant justement dans un hôpital tertiaire comme ça, ça fait porter plusieurs chapeaux un peu, tu sais, justement, chef d'unité, un peu de temps avec les étudiants, avec Gil. Tu sais, comment ça se passe au niveau équilibre de vie, comme avoir plusieurs chapeaux comme ça?
Ça aide, je pense, parce que chaque semaine est différente pour moi, chaque jour vraiment, mais chaque semaine est différente. Donc, moi, je peux focusser à différentes choses. Par exemple, si je fais une semaine de service, je suis très focussée sur mes patients seulement et je réponds moins vite à mes emails parce qu'il y a tellement de choses à faire chaque minute et chaque jour avec mon équipe qui est là à enseigner les étudiants et les résidents, mais aussi à prendre soin de tous les enfants qui sont là. Mais quand je ne suis pas sur une unité ou en service, par exemple, moi, je peux avoir des cliniques ou des suivis, mais j'ai aussi le temps de faire mes réunions, ma recherche, mes études, de l'enseignement, parler avec les étudiants et étudiantes en médecine. Donc, ça change comme à chaque semaine ou à chaque jour ce que je vais focusser, qui est très bien. Donc,
ça donne une petite marge de manœuvre. Bon, qu'est-ce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, j'ai ça à faire, mais vous pouvez probablement... comme l'organiser un peu comme vous voulez.
Exactement, exactement. Donc, s'il y a aussi comme plusieurs semaines que j'ai faites de suite, puis là, j'ai besoin d'une journée pour moi-même, je peux dire non, je ne prends pas de réunion aujourd'hui, puis c'est une journée à moi ou à mes enfants ou à faire quelque chose de différent, à catch-up, etc. Ouais. Donc, il y a beaucoup de flexibilité. Il y a des semaines qui sont très dures et des semaines qui sont moins dures. Et oui, il faut travailler les fins de semaine aussi, qui est un petit peu différent peut-être que d'autres places. Mais c'était une choix que moi, je voulais faire parce qu'après ma semaine de service où je suis vraiment comme concentrée sur mes patients, mais là, à la fin, je donne la parole à quelqu'un d'autre, I give handover, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre soin de ces enfants-là, puis moi, je quitte. Et je commence mes autres choses. Donc, les enfants sont encore là. Il y en a plusieurs que moi, j'ai pris soin. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va continuer pour moi.
Vous n'êtes pas de garde?
Non. Je suis de garde pour une semaine, mais quand ma semaine est finie...
C'est fini.
C'est fini.
Ah, c'est quand même... C'est vraiment bien, ça.
Puis en moyenne, combien de semaines, par exemple, par mois, comme ça, que vous faites des cliniques versus les autres activités?
Oui. Par mois, donc, un à deux. Semaine de service. Donc, je dirais durant... c'est ça, à peu près un ou deux week-ends aussi. Mais c'est pas là, j'ai une semaine par exemple aujourd'hui, j'avais des réunions ce matin, un petit clinique cet après-midi, donc je pouvais faire d'autres choses comme venir ici. Puis j'ai pas dans ma tête des patients qui sont en train d'avoir des évaluations, il faut pas que je check leurs signes vitaux la nuit parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Non, exactement, j'ai pas ma pagette parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève pour moi.
C'est sûr que ça doit vraiment aider à justement être capable de se déconnecter complètement. Oui.
Presque complètement. Ouais, oui, presque, mais oui!
Est-ce que c'est une pratique générale en pédiatrie ou c'est en plus à votre hôpital que c'est comme ça?
Je pense en pédiatrie, mais dans un hôpital. Je pense que okay. Si vous êtes pédiatre comme un médecin de famille ou quelqu'un qui travaille dans la communauté, peut-être vous ne travaillez pas les fins de semaine ou peut-être oui, mais je ne pense pas que, selon moi, je ne sais pas parce que je n'ai jamais travaillé dans la communauté, mais si moi j'ai mes enfants, mes patients, il y a toujours la possibilité qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils vont avoir une question, ils vont demander mon équipe ou ma clinique ou mon infirmière, etc. Donc, je suis toujours disponible pour eux. Qui est peut-être très bien pour quelqu'un qui aime cette relation-là puis prendre soin des patients. Mais selon moi, on ne ferme jamais le cerveau. Pour moi, c'est très dur pour une semaine. Je ne pense pas moins à mes enfants, mais je pense à mes patients. Mais à la fin de cette semaine-là, c'est fini parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Donc, ça, c'est mieux pour moi. J'aime beaucoup l'intensité qu'on peut avoir, mais pas toujours. Mm-hmm. Donc, on peut être très flexible dans un centre hospitalier. Donc, je ne sais pas, je pense avec les adultes, c'est un petit peu la même. Si tu parles à mes collègues, par exemple, en soins complexes ou en soins intensifs, par exemple, c'est un petit peu la même chose. Quand ils sont là, ils sont comme toujours là. Parce que les enfants sont très, très, très malades. Mais là, il y a des journées off ou des semaines off parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être là par rapport à votre équipe. Donc, à l'hôpital Children's, il y a aussi une bonne équipe pour les étages. Donc, moi, je préfère comme une semaine par mois.
C'est pratique.
Mm-hmm. Oui.
Sinon, on voit vraiment un peu tout le côté positif de la pédiatrie, tout ça, mais est-ce qu'il y a des points un peu plus négatifs ou des grands défis que vous rencontrez au quotidien ou durant votre carrière?
Ça, c'est une bonne question. Je suis sûre qu'il y en a un. Mais c'est difficile parce que je pense que c'est probablement un défi en médecine et pas juste en pédiatrie. Et ça, c'est dès que quelqu'un sort de l'hôpital, comment est-ce que je peux les soutenir hors de l'hôpital? Mm-hmm. Donc, les transferts pour les enfants, par exemple. Donc, si je demande à mes patients, est-ce que vous avez un médecin de famille ou quelqu'un dans la communauté, il y a comme un tiers qui va dire oui, puis le reste non. Donc, comment est-ce qu'on fait les suivis? Je ne veux pas juste dire... Bon, mais bonne chance dans la communauté sans les aider. Puis là, ça devient un petit peu difficile. Donc, mais c'est pas juste en pédiatrie. Je pense que c'est probablement en médecine en général si on veut trouver des ressources à l'extérieur. À l'hôpital, on est bien. Donc, si j'ai besoin de quelqu'un, si j'ai besoin d'une image, un labo, une expertise, mais moi, je l'ai ici. Mais quand je veux faire la transition dehors ou faire des suivis dehors, des fois, il faut que je les ramène comme à ma centre de jour et je vais continuer à les suivre un tout petit peu, mais... C'est pas le but non plus parce que je suis pas disponible comme quelqu'un dans la communauté pour les voir quand ils veulent. Parce que peut-être je suis de service encore et j'ai pas la disponibilité. Donc.
Ça serait pas pour tout le monde.
Non.
Puis en parlant de ça, là, de les gens qui sont renvoyés un peu, je pense qu'au Children, vous avez quand même une grande spécialité. Puis d'avoir aussi des enfants d'un peu partout au Québec.
Oui.
Est-ce que c'est quand même un grand enjeu? C'est ça, s'ils sont dans différentes villes, que c'est plus loin que Montréal? C'est vraiment plus difficile de les ramener. Donc, est-ce que vous trouvez que parfois, il y a une pénurie de soins en région que vous observez comme ça ou en général, vous êtes quand même capable de trouver des gens ou des médecins de famille ou des pédiatres à quelque part qui peuvent supporter?
Avec, ça dépend de où, mais oui, en général, oui, mais c'est pas juste moi qui fais ce travail-là. Donc, souvent, s'il y a quelqu'un qui vient de loin ou qui est compliqué, il y a toujours comme un travailleur social ou il y a quelqu'un d'autre qui va nous aider. Nous, on a aussi des équipes de suivre. Donc, si, par exemple, vous êtes très prématuré, tu sors de l'hôpital et oui, il faut trouver quelqu'un pour être sûr que quelqu'un peut te suivre régulièrement, mais on a aussi des suivis néonatales, juste pour être sûr que quelques fois par mois, il y a quelqu'un qui va regarder pour être sûr que ton développement continue à aller bien, etc. Donc, même si on veut les envoyer, ils ne sont pas toujours envoyés toutes seules dans la communauté. Il y a quand même un petit peu de suivi à l'hôpital. Mais s'il faut trouver quelqu'un, des fois, c'est difficile, mais des fois, ce n'est pas juste nous qui vont travailler là-dessus. Okay. Moi, j'ai beaucoup de support et beaucoup de l'aide qui peuvent m'aider un peu à faire tout ça.
Puis, je pense qu'on n'a pas le choix de l'aborder un peu, mais tu sais, je pense que les gens qui s'intéressent à la pédiatrie, c'est ce qu'ils aiment les enfants, puis que, tu sais, ils aiment cette population-là. Puis d'avoir à voir des enfants qui sont vraiment malades, puis devoir annoncer des mauvaises nouvelles aux familles, on dirait que ça doit être vraiment crève-cœur. Donc, comment que c'est de... commencer là-dedans, puis de trouver des techniques un peu pour mieux gérer ça.
Ouais. C'est une bonne question. Il y a toujours quelqu'un qui
va demander ça. Classique.
Mais c'est, même parce qu'on est, vraiment dedans quelque chose. Nous, on aime les enfants, c'est sûr. Donc, on veut donner le mieux possible pour ces enfants-là. Puis la plupart du temps, même s'il y a des, même s'ils sont très malades, ils vont sortir très bien. Comme je pense que, je pense pas que ça arrive avec les adultes, mais nous, on donne des congés du soins intensifs parce qu'ils peuvent changer 2-3 jours après, puis ils peuvent marcher, puis aller à la maison. Donc, les enfants peuvent guérir très, très bien. Donc, c'est la plupart des enfants qui vont aller très bien. Donc, si on a des nouvelles à donner qui sont moins bien, c'est sûr que c'est triste, mais je sais pas si c'est avec mes collègues aussi, mais je suis un petit peu différent. Moi, je comme déconnecte un tout petit peu, puis oui, je suis maman et je suis quelqu'un qui veut le mieux pour mes patients, mais je suis aussi leur pédiatre qui doivent donner des nouvelles et encore les supporter. Donc, nous, on essaie de donner de l'information avec plusieurs personnes qui sont là, leur famille, s'ils ont besoin d'un travailleur social, etc. Puis, on ne les laisse pas non plus. On va donner cette information-là. Peut-être on va sortir, mais on va revenir souvent voir comment ça va. Si c'est une autre équipe, par exemple, hématologie ou oncologie, qui vont prendre soin de leur enfant, mais je les laisse dans les mains de quelqu'un très spécifique, très intelligent et très bien à faire leur job. Donc, oui, c'est triste, mais je me sens que je fais le plus que je peux pour l'enfant. Je donne le plus de chance pour leur famille et je vais les supporter. C'est ça que j'aime. Même si c'est mauvais comme nouvelle, il y a des choses que je peux donner pour dire, mais on va faire ça ensemble. À la maison, tu peux faire ça. Tiens, amène le gros frère, puis on va parler comme ça ensemble. Il ne faut pas le faire toute seule, etc.
Ouais, même si les nouvelles sont négatives, le rôle reste comme positif.
Ouais.
C'est un peu de voir ça pas comme étant genre juste la nouvelle négative, mais le positif qui ressort derrière, fait qu'être capable d'amener le plus qu'on peut pour l'enfant. Je pense que c'est une belle façon de voir la chose.
Ouais.
Peu importe ce qu'on fait, il va toujours avoir des enfants malades. Exactement. C'est juste comment qu'on peut les accompagner.
C'est sûr qu'il y a des larmes de temps en temps pour tout le monde, mais ça va être comme ça, je pense, partout, pas juste en pédiatrie. Mais...
Ouais, c'est clair. Puis c'est quoi qu'il y a en pédiatrie qui se retrouve nulle part ailleurs? C'est le côté plus positif, ce que vous aimez le plus, que vous pensez qu'il se retrouve nulle part ailleurs?
Je sais pas.
Ou juste que vous aimez le plus de votre travail.
C'est sûr que la flexibilité, j'aime beaucoup. Tous les choses que je peux faire sont très différentes, mais sont tous des choses que j'aime faire. Donc, voir des patients, faire de l'enseignement, faire de la recherche, avoir une famille, tout ça, c'est comme une bonne chose à avoir.
Puis même
c'est plate sans avoir une réponse, mais c'est vrai que j'ai
quelque chose qui vient au bout des lèvres, juste les enfants en tant que tels. Tu sais, oui, il y en a dans d'autres spécialités, mais ça doit être quand même très différent travailler avec les enfants. Est-ce que vous avez parlé un peu de clown et tout ça? Est-ce que l'ambiance en général est différente? J'ai l'impression qu'un enfant, peu importe ce qui arrive, doit quand même garder un certain positivité et un certain espoir qu'il n'y a peut-être pas chez les adultes. Peut-être que je me trompe.
C'est vrai que la plupart du temps... parce qu'ils ont toujours comme un petit joie de vivre, même s'ils sont malades ou ils vont récupérer très vite aussi. Donc, voir cette évolution est très bien aussi. Tu as raison.
Sinon, un conseil pour les étudiants comme nous qui sont un peu à la recherche de leur voix?
Juste avoir des questions pour savoir c'est quoi ce que vous aimez faire. Donc, même si vous avez une doute, essayez-le. Faites une rotation, faites un stage, demandez des questions à quelqu'un qui le fait, juste pour voir si c'est quelque chose que vous voulez faire. Je pense que même si tu as moi, j'avais toujours la pédiatrie dans ma tête, mais j'ai confirmé avec d'autres choses, puis en travaillant avec les adultes, que c'était vraiment ça. Puis même moi, durant ma résidence, jusqu'à la fin, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est correct. Même si tu ne le connais pas au début, on peut changer. Même si on décide qu'on veut aller quelque part, on peut changer nos décisions-là parce que ce n'est pas fixe pour la vie. Mais il faut trouver quelque chose que tu peux penser va être bien pour le reste de la vie. Donc, par exemple, quand j'ai fait la pneumologie pédiatrique, oui, la fibrose kystique était bien ou les malformations des poumons étaient cool, mais là, comme la plupart des enfants qu'on voit, c'est de l'asthme. Donc, si tu n'aimes pas de l'asthme, mais ça, c'est comme 90 % de ta spécialité, fais pas de pneumologie. Donc, il faut, même si on aime les rares, les choses rares ou les choses qui sont différentes pour la spécialité, il y a aussi le bread and butter. Mm-hmm. Il faut aimer ça aussi.
Le petit train quotidien.
Exactement. Exactement. Donc, même si moi, j'ai beaucoup de flexibilité, etc., il y a des choses que je vois comme à tous les jours, à chaque fois que je suis aux étages. Donc, il faut aimer le plus possible ces choses-là aussi. Et juste être sûr qu'il y a aussi comme quelque chose que tu peux avancer, changer. Si tu veux comme continuer à améliorer toi-même, trouver un endroit où tu peux le faire. Donc, si c'est une centre tertiaire comme moi, je peux faire, mais je suis toujours avec des personnes qui sont intelligentes, qui connaissent des choses. Donc, moi, j'apprends tous les jours aussi. Puis ça, c'était important pour moi. Peut-être c'est moins important pour quelqu'un et c'est correct aussi, c'est différent. Donc, c'est quelque chose un petit peu différent. Mais s'il y a quelque chose qui a une valeur dans ta vie, que tu veux être sûr que tu continues à apprendre ou que tu peux faire de la recherche ou que tu peux travailler avec des étudiants, etc. Mais là, il faut trouver un endroit où tu peux faire ça.
Bien, merci beaucoup. Ouais. C'était vraiment une belle
discussion. Ça fait plaisir. Moi, c'est vite.
Ouais. Sinon, on aimerait ça remercier les gens. En fait, on a des cadeaux pour vous, les gens qui ont rendu ça possible. Donc, on a François Lambert, Freddy Dérable. On a la boîte à vin. On a également Atypique et...
Bota pour un petit séjour au spa.
Donc, merci encore. Puis pour merci. Nos auditeurs, n'hésitez pas, mettez des commentaires, des questions. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine.
Merci.